Je vous invite à une lecture dans le livre des Proverbes, les 7 premiers versets du livre que j'affiche ici dans la traduction de la Colombe. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si vous êtes régulièrement là depuis plusieurs mois, ça ne vous aura probablement pas échappé que nous étudions ce livre des Proverbes dans les rencontres de quartier, une semaine par mois, depuis le mois d'octobre. Et alors que nous arrivons bientôt à la fin de notre parcours, puisque nous allons le finir au mois de juin, il reste donc mai et juin, eh bien l'approche thématique du livre que nous avons choisi pour nos rencontres nous a fait voyager essentiellement et principalement dans les chapitres 10 à 31 du livre, en effleurant à peine les 9 premiers chapitres du livre. Ce serait dommage de refermer le livre des Proverbes sans regarder de plus près ce que nous disent les chapitres 1 à 9, en commençant aujourd'hui avec ce premier texte-là, et de continuer pendant toute la période estivale qui est devant nous. Le livre commence par cette mention, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ce verset nous renseigne sur l'auteur du livre des Proverbes. Il s'agit de Salomon. C'est d'ailleurs redit à d'autres endroits dans le livre, par exemple au chapitre 10, verset 1, Proverbe de Salomon, ou au chapitre 25, voici encore des Proverbes de Salomon. Voici encore des proverbes de Salomon parce que, à côté en fait de toutes ces mentions de Salomon, il y a d'autres personnes qui sont également mentionnées pour avoir écrit, composé des proverbes. Par exemple, chapitre 22, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Deux chapitres plus loin, voici encore ce qui vient des sages. Au début du chapitre 30 et du chapitre 31, les paroles d'Agour, et puis les paroles du roi Lémuel. Donc d'autres personnes que Salomon directement. Et quand on y regarde de plus près, le livre des Proverbes est composé de la manière suivante, ça permet d'en dresser une sorte de plan du livre. On a tout d'abord le prologue, que j'ai lu en introduction, qui fait donc l'objet de notre attention aujourd'hui. On a tout un ensemble, tout un discours sur la sagesse dans les 9 chapitres restants de la première section du livre. Et puis, il y a toute une collection de proverbes de Salomon, chapitres 10 à 22, qui sont introduites par cette mention « Proverbe de Salomon », on l'a lu. Puis, il y a deux collections des paroles des sages, au chapitre 22 à 24. Une deuxième collection de proverbes de Salomon, au chapitre 25, les paroles d'Agour et les paroles du roi Lémuel. Et le livre se termine par un épilogue, ce célèbre poème de la femme de valeur, la femme vertueuse, au chapitre 31. Donc Salomon n'est pas l'auteur de tous les proverbes qui sont contenus dans le livre des Proverbes. Il en a écrit bon nombre d'entre eux. Et il a pu recueillir d'autres proverbes, ceux des sages notamment, mais aussi ses collections un peu plus courtes à la fin du livre, d'Agour et de Lemuel. Et tout cela constitue le livre des Proverbes tel qu'il se présente à nous aujourd'hui. Proverbe donc de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Proverbe, ce premier mot dans le livre, désigne en fait l'un des deux principaux types de discours que nous avons dans ce livre qu'on trouve. On a des proverbes à proprement parler. Alors là, je cite la Bible d'étude du Semeur dans la note qui est correspondante à ce verset, qui nous dit que ce mot sert à désigner diverses, le mot proverbe sert à désigner diverses sortes d'unités de discours relativement courtes, formant un tout en elles-mêmes, tels que des proverbes, des maximes, des adages, des dictons, des paroles sentencieuses, des paraboles, etc. Fin de citation. Et toutes ces petites unités de discours qu'on a dans les proverbes s'enchaînent les unes aux autres sans forcément qu'il y ait toujours de lien entre elles. J'en reparlerai dans un instant. Ça, c'est le premier type de discours, les maximes, les proverbes à proprement parler. Et puis, on a aussi d'autres, un deuxième type de discours qui est l'enseignement, l'instruction au sens propre du terme, avec des discours qui sont cette fois-ci beaucoup plus développés, structurés, beaucoup plus de tournures, qui vont être des tournures à l'impératif pour nous engager, nous exhorter. Et on a dans l'ensemble du livre cette alternance entre tantôt des instructions et puis tantôt plutôt des proverbes, comme cela ressort avec le plan où j'ai mis en bleu tout ce qui relève de l'instruction, de l'enseignement, et puis en vert, essentiellement les proverbes de Salomon, ces maximes, ces proverbes au sens propre du terme, ce qui correspond quand même à la plus grosse section du livre, chapitre 10 à 22 et ensuite 25 à 29. Je le disais il y a un instant, quand on lit le livre des proverbes, et ça ne vous aura pas échappé si vous allez dans les rencontres de quartier, et encore ce mois-ci sur le mois de mai, on passe d'un proverbe à un autre. Il n'y a pas forcément de lien avec le proverbe qu'il y a juste avant ou celui qu'il y a juste après. On est frappé par cette absence d'ordre logique dans les thématiques qui sont abordées. Les proverbes, les maximes qui se suivent, ça forme une sorte de pêle-mêle. On passe d'un thème à un autre sans qu'il y ait toujours nécessairement un rapport avec le précédent et le suivant. Et quand on regarde bien, une même thématique, et c'est notre approche dans les rencontres de quartier tout au long de l'année, une même thématique est abordée en fait tout au long du livre. Ce mois-ci, nous ferons l'activité et la paresse. On ne peut pas dire que l'activité et la paresse, c'est uniquement dans le chapitre 25. Non, c'est présent dans tout le livre des proverbes. C'est disséminé un peu partout, entremêlé à d'autres thématiques et ainsi de suite. Alors pourquoi ce pêle-mêle ? Pourquoi ce thème de la paresse, par exemple, dont on parlera dans les rencontres de quartier, ce mois-ci, il en est question au chapitre 10, au chapitre 12, au chapitre 13, au chapitre 14, et ainsi de suite. Deux raisons qu'on peut appliquer à cette thématique ou à n'importe quelle autre, c'est que cette manière de présenter les choses dans le livre des Proverbes permet de refléter la vie humaine telle qu'elle est, au cours de laquelle, dans notre vie, il y a des situations très diverses qui se succèdent les unes aux autres sans qu'on puisse nécessairement comprendre comment agir, comment prendre les bonnes décisions. Et donc, ces livres des Proverbes sont là pour nous aider à adopter des lignes de conduite, à apporter des réponses dans des domaines très variés de l'existence. Ça dit quelque chose de notre vie, la vie humaine, qui est une sorte de grand pêle-mêle de situations, d'événements, et tout s'enchaîne sans qu'on puisse tout prévoir, tout anticiper, tout comprendre. Les proverbes, le livre des proverbes, reflète quelque chose de la vie que nous menons. La seconde raison, c'est que l'auteur du livre a très certainement misé sur la répétition espacée pour imprégner notre esprit, notre intelligence, par des rappels réguliers. Pour reprendre la thématique de la paresse, lutter contre la paresse, ce n'est pas seulement arriver à la fin de notre semaine, le vendredi après-midi, qu'il faut lutter, non. Ce n'est pas seulement une journée dans la semaine, ni une semaine ou un mois dans notre année. Non, c'est tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine, tout au long de notre année, de notre vie, qu'il y a cette lutte contre la paresse, d'où toutes ces répétitions, avec toutes ces nuances et ces colorations différentes, pour nous en imprégner et pour acquérir l'art de mieux vivre, de mieux se comporter, de mieux se conduire dans ce monde. Et puisque nous parlons de ces répétitions que nous trouvons dans le livre des Proverbes, je saisis l'occasion pour dire un mot sur un moyen mnémotechnique que l'on trouve dans la Bible, et en particulier dans le livre des Proverbes, pour aider le lecteur à retenir les choses. En tout cas, c'est comme ça que c'est conçu dans la pensée hébraïque, puisque l'Ancien Testament et donc les Proverbes ont été rédigés en hébreu. Je veux parler ici de ce moyen mnémotechnique qui est le parallélisme des idées. Si on veut comparer avec quelque chose qu'on connaît souvent bien, c'est notre poésie française. Dans notre poésie française, ce sont les sons qui vont rimer entre eux. Par exemple, avec ces quelques vers de Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. » C'est joli. Ça aide à retenir, ça, il y a quelque chose de très beau là-dedans, et puis tout le reste de ce poème est conçu de cette manière-là, avec différentes phrases, et toutes ces rimes de vers entre eux. Dans la poésie de l'Ancien Testament, les choses fonctionnent différemment. On va non pas faire rimer des sons, mais on fait rimer les idées entre elles. C'est comme ça qu'il en est question dans le livre des Proverbes, et pas seulement. Et on a relevé trois types de parallélisme. Le parallélisme dont j'affiche un exemple ici, qu'on appelle synonymique, où la même pensée est répétée deux fois, même parfois trois fois de suite. On trouve ça très très souvent, par exemple le Proverbe 10, verset 18. « Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, celui qui répand la calomnie est un insensé. » Ça dit deux choses qui sont vraiment synonymes, avec une petite nuance, un petit apport dans la suite, dans la deuxième partie du verset, mais ça dit globalement, essentiellement, fondamentalement, la même chose. Ça permet de marteler souvent l'idée, et parfois c'est dit même trois fois, et non pas seulement deux comme ici. S'il y a un parallélisme synonymique, il y en a un autre qui est plutôt antithétique, où on va établir un contraste. La même chose va être dite d'abord de manière positive et puis ensuite de manière négative, ou inversement. Un exemple dans le texte que nous avons lu, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Là, il y a un contraste qui est établi entre justement ceux qui vont craindre l'Éternel, qui vont se comporter avec justice, avec droiture, et inversement, au contraire, des insensés qui, eux, vont mépriser tout cela. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur ce verset. Je donne un autre exemple que je n'ai pas affiché, mais « Un fils sage fait la joie d'un père, un fils insensé fait le chagrin de sa mère. » Un contraste est établi pour marteler l'idée, pour bien faire comprendre le message. Et puis un troisième type de parallélisme, c'est le parallélisme synthétique, où la même pensée est répétée avec une progressivité, avec des nuances différentes au fur et à mesure. Et par exemple ici, le psaume 1, verset 1, pour montrer que ce parallélisme, on ne l'a pas uniquement dans les proverbes, mais on l'a beaucoup aussi dans les psaumes, et même dans les livres prophétiques. Psaume 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Vous notez une progression. D'abord, marcher, puis s'arrêter, et enfin on s'assoit. En compagnie de ces méchants, ces pécheurs, ces moqueurs, pour désigner de manière synonyme ici tous ceux qui se moquent de Dieu, tous ceux qui n'en ont rien à faire de Dieu. Heureux l'homme qui ne se comporte pas comme cela. Ce sont des généralités que j'ai l'occasion de dire ici, que j'avais déjà partagées en études bibliques au mois d'octobre, mais que je présente ici sous une forme un petit peu différente dans ce premier parcours du chapitre 1 du livre. Les versets 2 à 6 disent maintenant quelque chose du but du livre. Pourquoi le livre des Proverbes ? Quelle est leur visée ? Et je relis les versets donc 2 à 6. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. Avec le livre des Proverbes, et on l'a vu tout au long de cette année dans les rencontres de quartier, on est entré dans ce qu'on appelle la littérature de sagesse. On appelle ça aussi, si vous voulez, des gros mots théologiques, les écrits sapientiaux, la littérature sapientiale. On peut trouver ça dans des commentaires, dans des bibles d'études. Mais retenez en tout cas littérature de sagesse, parce que c'est bien de sagesse dont il est question dans ce livre. Ça fait partie des écrits de sagesse, les proverbes, tout comme le livre de Job, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, les psaumes, et même beaucoup d'autres passages dans la parole de Dieu, ici ou là. Et l'une des caractéristiques la plus marquante de ces écrits de sagesse, c'est que c'est un ouvrage qui vise à instruire, à enseigner. Il y a vraiment un caractère didactique, c'est relatif à l'enseignement ici. Regardez les versets 2 et 3. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture. On l'a vu tout au long de l'année. On l'a vu aussi si vous avez quelques souvenirs d'il y a 2 ans en arrière avec le livre de l'Ecclésiaste. Les écrits de sagesse partent de l'expérience. Ils regardent le monde dans lequel nous vivons. Ils partent du vécu, de la réalité du monde, de la société dans laquelle nous sommes. Et ils viennent apporter des conseils, des orientations. Ils vont envisager différents cas de figure, différentes situations possibles, les réactions à avoir dans telle ou telle situation, les comportements à adopter. Ils vont tirer des lignes de conduite, des leçons pour notre vie. Les écrits de sagesse, donc notamment le livre des Proverbes, s'attaquent aussi à la réalité du mal. La réalité du mal, parce que nous vivons dans un monde qui est marqué par le mal. Qu'est-ce qu'on fait de cela ? Eh bien, le but de cette littérature et le but ici du livre des Proverbes, c'est de nous apprendre à vivre dans un monde où le mal est présent. Les écrits de sagesse vont peindre des portraits, le portrait du paresseux et du travailleur. On en reparlera ce mois-ci dans les rencontres de quartier. Le portrait du menteur, le riche, le pauvre, la femme séductrice, ou inversement, la femme de valeur, etc. Il y a plusieurs caractères aussi qui sont présentés comme celui du juste, du sage. On l'a vu au verset 5, que le sage écoute. Mais aussi le caractère du méchant, de l'insensé, comme au verset 7, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout cela pour décrire le but du livre des Proverbes. Il vise l'enseignement de l'art de vivre, l'art de se conduire, comme on le lit au verset 5. les proverbes, le livre des proverbes a été donné à cette fin-là, de nous apprendre à vivre dans un monde, et de surcroît un monde marqué par le mal. C'est comme une sorte de cours éducatif pour apprendre à vivre. La sagesse dont il est question tout au long du livre des Proverbes englobe un certain nombre d'aspects qu'on retrouve dans ces versets 2 à 6 ici. La capacité à agir avec bon sens, à faire ce qui est juste, faire ce qui est droit, comme au verset 3. La connaissance et la réflexion, au verset 4, nous lisons au jeune homme, ça donne de la connaissance, de la réflexion. La capacité à apprendre et même à augmenter son savoir, comme il est question au début du verset 5. Apprendre l'art de vivre, celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire, au verset 5. C'est apprendre à mener une vie avec une ligne de conduite qui est appropriée face aux différentes circonstances de notre existence. C'est apprendre aussi à trouver avec discernement un chemin dans les vicissitudes de la vie. Le livre des Proverbes nous aide à résoudre des choses qui sont compliquées. Pour comprendre, verset 6, un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. C'est la capacité de bien gérer ses affaires, de bien mener ses entreprises, de porter des jugements justes et d'analyser avec justesse, etc., etc. Nous avons dans ces premiers versets du livre, 2 à 6 ici, le but, la visée, le pourquoi de ce livre des Proverbes. Nous aider à vivre dans ce monde et de surcroît dans ce monde où le mal est présent. Le livre des Proverbes est donc, et on l'a vu tout au long de l'année, on va continuer de le voir encore ce mois-ci, au mois de juin, très concret, très pratique. Ça touche à la vie de tous les jours. Alors j'ai eu l'occasion de dire là, plusieurs reprises, de dire « nous hein, ». Ça nous aide, ça nous enseigne, etc. Mais posons-nous la question, ce livre, à qui était-il adressé originellement ? En fait, quand on y regarde bien, à l'exception du verset 1, et peut-être l'une ou l'autre mention dans le livre, il n'y a presque aucune référence à l'histoire. Il y a juste, voilà, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ça dit quelque chose sur le fait que le livre des Proverbes et plus largement la littérature de sagesse, ça a un caractère intemporel. Si on veut le dire autrement, l'enseignement qu'on trouve dans le livre des Proverbes, il est intemporel, il est valable, il vaut toujours et partout. Il n'y a pas besoin, comme c'est le cas pour les prophètes de l'Ancien Testament, et là, vous vous en souvenez, on l'a vu dans les rencontres de quartier il y a un an, avec les petits prophètes, ou même quand on aborde une lettre du Nouveau Testament, il n'y a pas besoin, là, pour les Proverbes, de se poser la question à qui ce livre était-il destiné en premier ? Quel était le contexte des premiers destinataires ? Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux dans leur contexte ? Et à partir de là, comprendre ce que ça veut dire dans notre contexte à nous. Il n'y a pas besoin de faire ce travail-là dans le livre des Proverbes et de la littérature de sagesse qui ont un caractère intemporel. C'est vrai, toujours et partout. Ça rend le livre des Proverbes plus facile aussi à lire, avec, comme je le disais, quelque chose de très concret, très pratique pour notre vie quotidienne, avec ces répétitions aussi qui sont là comme pour marteler des idées, avec des notions, des colorations, des nuances différentes. Le livre des Proverbes a été mis en forme pour l'instruction de l'ensemble du peuple de Dieu, de tout temps et en tout lieu. Dès lors que le livre a été écrit, évidemment. C'est ce dont il est question dans ces versets 2 à 6, hein, ça s'adresse finalement à tous. Et aussi peut-être de manière plus particulière, sans que ça soit exclusif, hein, mais aux jeunes, comme il est question au verset 4, hein, le jeune homme, et même aux sages et aux intelligents, comme il est question, dont il est question au verset 5. Parce que quand on est peut-être sage ou qu'on se croit intelligent, on pense se suffire à soi-même et c'est peut-être là qu'on a besoin plus particulièrement aussi de ce livre des Proverbes et plus généralement de la littérature de sagesse qu'on trouve dans la parole de Dieu. Tout cela en vue d'enseigner l'art de se conduire, d'apprendre à vivre selon Dieu, selon sa sagesse dans ce monde. Et ça permet de faire la transition vers le dernier verset que nous avons lu en introduction, le verset 7, que je relis. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Avec ce verset, le livre des Proverbes nous indique par où il faut commencer. Il faut commencer par la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie la crainte de l'Éternel ? Craindre Dieu. Craindre l'Éternel, c'est être animé à son égard, à l'égard de Dieu, d'un profond respect, d'une déférence à son égard. C'est reconnaître la seigneurie, l'autorité de Dieu. Et cette reconnaissance implique la soumission aussi à sa volonté, qui est souveraine. Ça implique aussi l'obéissance à ses commandements. Et par voie de conséquence, ça débouche sur la confiance en Dieu, sur l'amour de Dieu, l'amour que l'on porte à Dieu, l'écoute aussi et l'attention que l'on porte à sa parole, à ses lois, à ses commandements. On peut même aller jusqu'à dire que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, inclut la crainte de lui déplaire. Parce que quand on est face à cette seigneurie, face à cette sainteté, il en a été question dans l'un ou l'autre chant aussi ce matin, la sainteté de Dieu, il y a cette crainte de le déplaire. La crainte de Dieu est le commencement de la connaissance. Le mot connaissance qu'on a dans ce verset 7 met l'accent sur l'aspect intellectuel de la sagesse, sur le savoir qui s'acquiert. Et en même temps, ce mot connaissance peut fonctionner comme un synonyme du mot sagesse. D'ailleurs, au chapitre 9, verset 10, on a le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous voyez, les choses sont dites ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance au chapitre 20. Et puis au chapitre 9, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça vient comme un écho, ça vient former une inclusion. La crainte de Dieu est centrale dans le livre des Proverbes. Elle est tellement centrale qu'elle est comme un marqueur qui vient structurer l'ensemble du discours. La crainte de Dieu, je le disais il y a un instant, elle vient former une inclusion entre les versets, les chapitres 1 à 9 qui forment un ensemble à tout le livre. C'est ce dont on va parler justement avec cette prédication et toutes les suivantes pendant l'été. Ça vient former une inclusion, mais cette inclusion, on la retrouve aussi sur l'ensemble du livre, puisque le livre se termine au chapitre 31, verset 30, par ce rappel de la crainte de Dieu, avec la femme vertueuse qui craint l'Éternel. Et c'est présent plus d'une vingtaine de fois dans le livre, dans l'ensemble du livre, même 22 fois pour être précis. Le rappel de cette crainte de Dieu qui est là comme la première de toutes ces répétitions qu'on a dans le livre, comme pour marteler, comme pour enseigner, comme pour structurer toute notre vie du début à la fin, tout comme ça vient structurer tout le livre des Proverbes du début à la fin. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de sagesse possible sans la crainte de Dieu, sans ce profond respect de Dieu, sans cette soumission à Dieu. Et donc, c'est important de commencer par le commencement. Et ce verset 7 ici nous dit par où commencer. Et en même temps, ce verset 7 nous dit par où ne pas commencer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il y a un contraste là. J'en parlais tout à l'heure avec le parallélisme antithétique. Il y a un contraste ici très fort. On sait par où commencer, on sait aussi par où ne pas commencer. On sait ce qu'il faut éviter, se comporter comme un insensé. L'insensé, dans le livre des Proverbes et dans la littérature de sagesse plus généralement, ça désigne celui qui ne se soucie pas de Dieu. Ça désigne celui qui ne fait aucun cas de la loi de Dieu, de ses commandements. L'insensé, c'est celui qui méprise les conseils de sagesse qui sont précisément communiqués dans ce livre des Proverbes. L'insensé, c'est celui qui déteste l'instruction. C'est celui qui refuse de se laisser reprendre. C'est celui qui se croit suffisamment sage pour mener sa vie comme il l'entend. Parce que l'insensé cherche finalement à mener sa vie comme il l'entend lui et lui seul, sans se préoccuper des autres et de Dieu en particulier. Ces sept premiers versets du livre résonnent donc comme une introduction qui vient conditionner, qui vient nous préparer pour recevoir tout ce qui va être dit ensuite dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes nous exhorte, nous invite à la crainte de l'Éternel. Et quand on regarde toute l'histoire du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament en particulier, avec le peuple d'Israël, qui a bien des fois, avant le livre des Proverbes et encore après, été amené par des exhortations, de nombreuses invitations à craindre l'Éternel, à le révérer, à l'adorer, lui et lui seul. C'est à lui seul que tu rendras un culte, etc. Toutes ces exhortations qu'on a dans la loi de Moïse, dans les premiers chapitres de la Bible, dans le livre du Deutéronome en particulier, qui sont rappelées dans les livres des prophètes quand le peuple avait tendance à s'éloigner de Dieu. Les Israélites n'ont pas toujours fait preuve de sagesse aux yeux du monde. Et pour autant, le Seigneur ne s'est pas détourné d'eux. Le Seigneur a toujours été là. Il ne s'est pas détourné de sa création pour les laisser cheminer dans les voies de ténèbres, loin de lui. Non. Dieu a conçu un plan de salut pour sauver l'humanité pécheresse. Et ce plan de salut a pris forme humaine en la personne de Jésus-Christ, homme et Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu dans le monde, que Dieu a envoyé dans le monde. Lui, Jésus-Christ, n'a jamais commis une seule faute, un seul péché. Il a mené une vie parfaitement dans la justice, avec sagesse. Et on voit dans la Bible que les promesses de Dieu à l'égard de son peuple, toutes ces promesses dont on a parlé aussi dans la première partie de ce culte, eh bien, elles se sont accomplies en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La sagesse qui est enseignée dans le livre des Proverbes, elle est présente dans l'ensemble de la Bible, mais elle est pleinement révélée en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient incarner la sagesse. Et pour quiconque place sa confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus rend possible la relation avec notre Père céleste. Parce que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, il a donné sa vie par amour et il nous invite à placer notre confiance en lui, à avoir une relation nouvelle avec notre Dieu. Une relation où tout dépend non plus de ce que nous faisons, non pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui, Jésus-Christ, a accompli pour nous. Et ce livre des Proverbes, et en particulier ce verset 7, le début du verset 7, ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Ça vient établir cette relation fondamentale avec Dieu, avec l'Éternel, une relation qui implique de le craindre, de le respecter, de l'honorer, de l'aimer, de le servir, de le suivre jusqu'au bout. La sagesse, selon la Bible, appelle à cette relation avec notre Dieu. une relation personnelle de lui à moi, de moi à lui. Et on l'a vu dans des chants que nous avons entonnés tout à l'heure. Il y a des chants où on peut dire « je » parce que c'est « je » individuellement, moi, dans ma relation personnelle avec le Seigneur, je peux dire cela. Et en même temps, des fois où nous disons « nous » dans les chants, parce que nous chantons ensemble, en communauté, parce que nous avons tous cette même foi dans ce même Seigneur, et nous avons tous cette relation personnelle, intime avec lui. Une relation personnelle, une relation dans laquelle Dieu vient petit à petit transformer chaque domaine de notre vie, pour que nous apprenions à vivre selon lui, avec sagesse et avec connaissance. Que le Seigneur nous aide à vivre cette relation toujours plus forte avec lui, par la prière, par le chant, l'adoration, la louange, par l'écoute de sa parole. Cette relation avec son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné sur la croix par amour pour nous et que nous voulons aimer en retour. L'amour qui devient le moteur derrière toutes nos actions. Et tout cela par le moyen de l'Esprit Saint, dont nous reparlerons d'ailleurs dans 2 semaines au week-end d'Église. Comment Dieu vient justement transformer notre vie, agir dans notre vie par son Esprit. Que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous. Amen.